Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. À l'aube d'une quatrième année de guerre, les Ukrainiens ne faiblissent pas face à l'agression russe. Mais les morts, les blessés et les bombes pèsent de plus en plus lourdement. Les Ukrainiens sont aussi fatigués et aspirent à un retour à une vie sans combat. Après le choc en 2022, l'espoir en 2023, les difficultés en 2024-2025 marquent un tournant avec une lassitude certaine et la réalité qui s'impose selon laquelle les Ukrainiens doivent désormais se battre seuls, en tout cas sans les Américains. L'Ukraine n'entend pas renoncer à ses territoires souverains ni à son adhésion à l'OTAN. Cette position est-elle tenable? D'aucuns assurent que le gel sous pression de Donald Trump est le prélude à une seconde guerre russo-ukrainienne. Un conflit futur quand le facteur Trump disparaîtra. Quelle paix pour l'Ukraine! Regard avec nos invités. Avec moi en studio, Alexandra Goujon, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, auteur de Ukraine, de l'indépendance à la guerre aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour.
Bonjour.
Par téléphone, Philippe Gros, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique spécialisée dans les questions militaires. Bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Et également par téléphone depuis Londres, Youri Clavillier, chercheur à l'International Institute for Strategic Studies. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Quel regard portez-vous chacun sur les événements de ces derniers jours? Je pense à la rencontre qualifiée d'historique à Riyad en Arabie Saoudite entre Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, une rencontre sur l'Ukraine sans l'Ukraine, une relance ou une reprise des relations entre Washington et Moscou et cette déclaration de Donald Trump qui accuse l'Ukraine d'être responsable de la situation et Zelensky d'être un dictateur. Philippe Gros, votre commentaire?
Mais elles traduisent, alors même s'il faut rester prudent parce que on n'est qu'au début des discussions, on ne sait pas exactement sur quoi ça aboutira à l'avenir, mais elles traduisent néanmoins un rapprochement que je pense structurel entre Washington et Moscou.
C'est clair.
Il y a même en l'état un alignement de Washington sur Moscou, sur le plan d'une part idéologique, pour partie. Et d'autre part, un alignement d'intérêts, on va dire, des Américains qui ont un appétit de l'administration Trump, qui a un appétit énorme à renouer le business avec la Russie. Et j'aimerais bien tenter d'éloigner Moscou de Pékin, qui reste son principal adversaire. Et qui est entreprise par un président qui, il faut le rappeler, démontre tous les jours que c'est un président astratégique. C'est-à-dire que pour Donald Trump, un allié, un adversaire au sens géopolitique classique du terme, n'a pas grand sens en réalité.
Alexandra Goujon, vous étiez tout récemment en Ukraine. Comment les Ukrainiens réagissent-ils face à ce rapprochement américano-russe? Il était tout de même un peu couru d'avance. Les Américains sont en train de lâcher l'Ukraine comme ils ont lâché l'Afghanistan?
Bien évidemment que c'est une sorte de douche froide hein, pour les Ukrainiens. Je dirais jusqu'à assez récemment, certains misaient sur l'imprévisibilité de Donald Trump et sur un rapport de force Washington-Moscou qui leur soit plus favorable. C'est-à-dire Washington pèserait de tout son poids pour, si je puis dire, un petit peu faire pression en quelque sorte sur la Russie. Là, comme cela vient d'être dit, il y a une sorte d'alignement hein, sur la position de Moscou, bien évidemment, qui est, je reprendrai les propos ici de Volodymyr Zelensky, désagréable, à tout le moins. Par contre, sur place, aujourd'hui, on attend de voir, en fait, ce que ces négociations vont donner. Parce que il n'y a pas réellement de plan pour le moment. Hein. Ce qui paraît dangereux, c'est ce discours qui vise alors à délégitimer le pouvoir en place. Et là, il y a une sorte de levée de bouclier en Ukraine. Parce que la popularité de Zelensky est autour, on va dire, navigue entre 50 et 60 %.
On est loin des 4 % évoqués par Donald Trump.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, hein, on relégitime, si je puis dire, Volodymyr Zelensky pour lequel il y a un certain nombre de critiques qui sont évoquées en interne. Mais s'il s'agit de l'État ukrainien et du chef de l'État ukrainien, là, on est vent debout derrière Zelensky, bien évidemment. Donc, on se demande pourquoi ces 4% ont été évoqués. Et bien évidemment, on le voit au prisme de la propagande russe, qui vise à montrer l'illégitimité de Zelensky. Quant aux questions des élections, elles ont été déjà évoquées plusieurs fois en Ukraine, en fait. C'est pas comme si, on va dire, cette question ne s'était pas posée en 2024. Mmh. Elle a été posée, et plus des deux tiers de la population s'est accordée sur le fait qu'en temps de guerre, il ne peut pas y avoir d'élections. Mmh. Parce que les conditions ne sont pas réunies. On a 1 million de soldats sur le front, des millions de réfugiés, de déplacés internes. Et quid des bombardements qui ne cessent. C'est-à-dire que pendant qu'on a toutes ces négociations, ce que l'on observe, c'est que les bombardements n'ont jamais cessé sur un certain nombre de grandes villes, sans parler de la ligne de front qui, en ce moment, est très chaude sur un certain nombre de points.
On les abordera, ces questions de ligne de front. Juste, je rebondis sur ce que vous avez dit à l'instant. C'est une déstabilisation psychologique, d'une certaine manière, de la part de Donald Trump, qui veut se débarrasser de Zelensky. Alexandra Goujon.
Moi, je crois que Donald Trump veut se débarrasser de la guerre russo-ukrainienne. C'est-à-dire, et on l'a vu, alors pareil, des informations sur le nombre de milliards que les États-Unis auraient alloués à l'Ukraine. C'est une charge financière dont il veut se débarrasser. Et j'allais dire, on a le sentiment que tous les moyens sont bons pour s'en débarrasser. Voilà, la question, c'est que Zelensky, bien évidemment qu'il a été le leader international de cette résistance nationale, mais ce n'est pas lui qui porte la résistance nationale. La résistance nationale, elle est portée par le peuple, tout un réseau de micro-associations, micro-groupes qui continuent, si je puis dire, de soutenir l'armée ukrainienne, dont je rappellerai qu'elle est l'institution aujourd'hui la plus populaire du pays. On a l'armée et les volontaires. Donc Zelensky n'est pas totalement libre non plus dans ses négociations. Pour l'instant, de toute façon, il n'est pas convoqué, mais il a une mission. C'est cette mission qu'il a incarnée pendant des années, et c'est grâce à cette mission aussi que sa popularité a pu être maintenue pendant ces dernières années.
La mission de Zelensky, donc défendre son pays. Alexandra Goujon évoquait l'armée, qui est l'institution la plus populaire actuellement en Ukraine. Youri Clavillier, qu'est-ce que l'on peut dire du rapport de force sur le terrain, et qu'est-ce que cela peut dire pour 2025 Quelle est finalement la situation des deux belligérants?
Alors, c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est parce que Trump fait un forcing sur la question des négociations et d'un éventuel possible cessez-le-feu. On oublie que sur le terrain, en fait, les combats continuent de manière tout à fait intense, et que l'Ukraine a survécu à une année 2024 qui était probablement la plus difficile en termes d'un point de vue militaire. Elle a limité les avancées russes malgré une famine de munitions, un déficit de munitions d'artillerie qui était extrême durant la moitié de l'année 2024. Et depuis un an environ, elle souffre aussi d'un manque de personnel, de fantassins dans ses bataillons d'infanterie, ce qui rend évidemment la tâche de la défense de son territoire particulièrement ardue, parce que le fantassin, c'est la base. Et malgré cela, l'armée russe a subi les pertes les plus importantes de toute la guerre en 2024, et les gains territoriaux que la Russie a pu faire ne peuvent pas être considérés comme décisifs. Ça ne va pas changer le rapport de force, et ça ne change pas non plus le rapport de force diplomatique. Donc, sur le terrain, on ne voit pas pourquoi les deux, aussi bien les Ukrainiens que les Russes, se précipiteraient à avoir des négociations pour un cessez-le-feu, sachant que les positions des deux en termes du minimum qu'ils sont capables d'accepter vis-à-vis de leurs concessions, c'est incompatible. Les Ukrainiens veulent des garanties de sécurité. Les Russes ne veulent pas que les Ukrainiens aient ces garanties. Les Russes veulent contrôler le territoire qu'ils s'occupent. Les Ukrainiens ne veulent pas le reconnaître. Donc, de toute façon, c'est incompatible. La Russie peut maintenir son effort offensif encore probablement cette année, en 2025. La question se pose au-delà. Elle peut le maintenir, mais elle ne peut pas l'augmenter. C'est très important. Elle ne peut pas augmenter la pression. Et les Ukrainiens, l'armée ukrainienne, même si elle souffre de ce déficit, elle ne souffre plus aujourd'hui d'un manque de munitions, ou du moins c'est le rapport. Le ratio serait apparemment d'un pour deux en termes de tirs d'artillerie. Et on constate qu'il n'y a pas vraiment de manque sur ce sujet-là. Et en termes d'équipement non plus, la situation est plutôt correcte. Par contre, il y a vraiment des questions sur la gestion des ressources humaines, du personnel et du coup, comme je le mentionnais, de l'infanterie. Mmh. Mais l'armée ukrainienne devrait pouvoir aussi tenir la pression russe. Et donc la question se pose sur est-ce que éventuellement que se passerait-il l'année prochaine? Les Ukrainiens mettent en place des réformes, on en parlera peut-être après, pour améliorer justement leurs problèmes, pour résoudre ces problèmes-là. Donc voilà, je reste très sceptique à l'idée de même avec un pressing américain de et des négociations qui aboutissent cette année.
Alors, c'est vrai que Donald Trump est très impatient. Est-ce que pour autant, les uns et les autres vont se mettre d'accord? Yuri Clavillier évoquait les réformes, Alexandra Goujon, qui sont actuellement en cours. Quel éclairage vous pouvez nous donner?
Alors, il y a plusieurs choses, hein. Le manque de fantassins donc a été évoqué et on a vu un petit peu des propositions être suggérées sur comment essayer d'augmenter la motivation des volontaires entre 18 et 24 ans, sachant que la mobilisation aujourd'hui commence à l'âge de 25 ans. Mmh. Et il y a aussi un certain nombre de critiques, hein, qui sont évoquées sur notamment la question pas du commandement général, mais de la chaîne de commandement. Donc là-dessus, il y aurait des réformes effectivement qui seraient menées. Mais j'aimerais revenir peut-être sur deux points importants. Effectivement, il y a toute la question du cessez-feu, des négociations, mais ce qui a été évoqué, c'est les garanties de sécurité. Oui. Ça, pour les Ukrainiens, c'est extrêmement important parce que la guerre a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Et pour les Ukrainiens, ce qui s'est passé entre 2014 et 2021, et plus précisément après les accords de Minsk 2 en 2015, une sorte de pause pendant laquelle les Russes se sont mis en mouvement et se sont préparés à cette invasion à grande échelle. Donc pour les Ukrainiens, un cessez-le-feu est possible, mais si ce cessez-le-feu sert à la Russie, et éventuellement à mener son combat dans quelques années, à le reprendre avec beaucoup plus de force, ça, c'est une menace extrêmement importante. Et puis l'autre chose peut-être que je voulais évoquer, dont on n'a pas parlé, mais qu'il va falloir, suivre de près, c'est l'Union européenne. Certes, l'aide américaine, militaire américaine, est extrêmement importante. Il y a une chose dont on parle assez peu, c'est l'aide macro-financière de l'Union européenne à l'État ukrainien direct. D'abord, l'aide militaire de l'UE, des États membres de l'UE, auxquels on peut ajouter, par exemple, donc bien évidemment le Royaume-Uni, hein, sont des acteurs très importants. Mais il y a aussi cette aide financière et la question d'une augmentation du budget militaire des États européen qui ne pourra pas se substituer à ce que font les Américains, ça c'est une certitude. Mais par contre, il peut y avoir un effort de ce côté-là. Et l'Ukraine, si je puis dire, cherche à intégrer l'Union européenne. C'est là qu'elle a ses valeurs. Et aujourd'hui, on voit bien que ce qui se passe entre la Russie et les États Unis concerne au premier chef aussi, non seulement l'Ukraine, mais aussi l'Union européenne.
Bien sûr, et alors pour ce qui est de l'aide européenne, et vous l'avez souligné, l'aide macro-financière, les pays les plus actifs dans ce domaine, ce sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, États-Unis et le Danemark. Alors, je reviens, Philippe Gros, avec vous sur la question des réformes. Alexandra Goujon le disait, la mobilisation commence à 25 ans. La question qui se pose, et on sait toutes les difficultés que Zelensky a de mobiliser davantage, est actuellement à l'étude de mobiliser les jeunes de 18 à 20 ans. Est-ce que ce n'est que comme ça que Vladimir Zelensky pourra continuer à se battre contre la Russie, Philippe Gros?
Bon, effectivement, vous avez raison d'élargir en fait la perspective sur ce plan. Il faut bien voir qu'un système, système militaire, c'est tout un écosystème. Donc, avec des questions d'organisation, des questions de structure de commandement, des questions de dotation en équipement, etc. etc. Il faut bien voir que du côté russe comme du côté ukrainien, on n'est pas sur une mobilisation totale des ressources telles qu'on l'a connue dans les grandes guerres mondiales. On est, alors le côté russe, le cas russe, c'est un cas particulier. On peut dire que c'est une guerre, on va dire, Poutine, c'est une guerre de prince avec une logique de mercenariat. Du côté ukrainien, on est sur tous les dilemmes de la mobilisation d'une, on va dire, on appellerait ça d'une société postmoderne, à l'aune d'une guerre de haute intensité qui menace la distance même de l'État, mais qui se fait, qui se mène principalement en dehors des frappes stratégiques sur un front éloigné et qui pose le dilemme du maintien des fonctions économiques, de la vie de la société, etc., etc., dans une société moderne comme celle que nous connaissons. Et donc derrière, avec un tarissement du flux volontaire par rapport à 2022, et donc le besoin de mobiliser un plus grand nombre de gens. Cela étant, du côté ukrainien, il n'y a pas que simplement ce chiffre du nombre de volontaires suffisants et de combien on va mobiliser. Vous avez aussi effectivement tout un ensemble de défis d'organisation, de lutte contre la corruption, d'efficacité de l'armature. Il faut savoir que le système de défense ukrainien est un système qui est hybride, totalement hybride. Alexandra Goujon l'a un peu évoqué, on est sur un système où vous avez en fait l'ancien monde hérité de la République, qui gère une partie des problèmes, qui est parfaitement conscient de son manque d'aptitude, en tout cas au niveau de la haute hiérarchie, du manque d'aptitude de ce système de défense à gérer l'ensemble de l'effort de guerre. Et donc depuis 2014, vous avez toute une partie de la société ukrainienne qui fait tourner en complément, c'est-à-dire une mobilisation de la société civile. C'est presque physique quand vous voyez les réunions, quand vous assistez à des réunions de ces différents intervenants, vous voyez presque physiquement la différence dans la culture même, je dirais, de ces différents intervenants, entre les héritiers de l'ancien monde soviétique et cette start-up, etc., etc., qui contribuent massivement à l'effort de guerre. Et en fait, au bout de compte, la réponse des Ukrainiens, c'est de continuer à drainer de plus en plus de ressources et d'activer de plus en plus de leviers via cette société civile vers l'effort de guerre. Pour vous donner un seul chiffre, 90% des drones qui sont un élément fondamental de la défense ukrainienne, 90% des drones sont acquis via en dehors, je dirais, des chaînes d'acquisition du gouvernement. Et donc, si vous avez en plus tout cela aboutit à un système qui, sur le front, un système militaire, où vous avez une forme d'entrepreneuriat militaire, on va dire, avec un système de brigades qui est fondamentalement hétérogène. Vous avez les bonnes brigades bien dotées qui ont une capacité, une semi-autonomie en termes d'acquisition, de recrutement, d'entraînement, même maintenant. Et puis, les brigades qui sont les moins bien dotées, c'est une forme de, comme disait mon collègue Vincent Touré, c'est une forme de darwinisme militaire, vous voyez. Et en fait, au bout du compte, c'est ce système que les Ukrainiens ont trouvé pour compenser ce qu'ils disent, terminerai par cette citation qu'on nous a. C'était trois ce qu'on nous a tout en ligne. Une petite armée soviétique ne peut pas vaincre une grande armée soviétique. Et donc, il faut trouver une autre logique de mobilisation de ressources.
Philippe Gros, merci. On vous retrouve après le journal avec Youri Clavillier et Alexandra Goujon qui est avec moi en studio. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Regard sur l'Ukraine, nous retrouvons nos invités. Alexandra Goujon, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, auteur de Ukraine, de l'indépendance à la guerre aux éditions Le Cavalier Bleu. Philippe Gros, maître de recherche à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialisé dans les questions militaires. Et Yuri Clavillier, chercheur à l'International Institute for Strategic Studies, qui est avec nous au téléphone depuis Londres. Yuri Clavillier, réaction à ce que Philippe Gros a détaillé précédemment sur l'implication très forte de la société civile ukrainienne, cet entrepreneuriat militaire et ce système qui vient finalement compenser peut-être les faiblesses de l'armée. Du côté européen, des erreurs ont été faites et la première d'entre elles, c'est de ne pas avoir armé plus vite et davantage les Ukrainiens. On reproche aussi à Zelensky un certain nombre d'erreurs.
C'est un sujet qui animera probablement les historiens pendant des décennies sur les erreurs ou les choix les pertinents qui auraient pu être faits à tel moment. Mais effectivement, l'armée ukrainienne est une armée très hétérogène, alors aussi bien en termes de la façon dont elle s'organise, comme l'a très justement rappelé Philippe Gros et Alexandra Goujon, et aussi dans ses équipements, parce que nous lui avons fourni, nous alliés, du matériel qui était à la fois d'héritage soviétique ou alors du matériel de manufacture occidentale, mais vous vous retrouvez avec une armée qui est très très hétérogène, très hétéroclite, avec probablement la plus grande diversité d'équipements au monde. Je pense que vous ne trouverez pas d'armée avec plus de types de différents types de chars, d'artillerie, etc. Donc c'est un défi qui est colossal sur ce point. En termes de force, vous avez des bonnes brigades qui, elles, souffrent beaucoup moins du manque de ressources humaines ou de fantassins inclus. Parce qu'elles, d'ailleurs, de ce côté un peu, ils font de la pub directement, ils recrutent directement, ils ont une présence sur les réseaux sociaux très importante et aussi moderne. Donc, du coup, on trouve beaucoup plus de jeunes dans leur rang que dans les brigades un peu plus, entre guillemets, classiques. Et certaines de ces brigades qu'on pourrait dire d'élite, elles, en termes de taille, elles sont jusqu'à 2 à 3 fois plus grandes qu'une brigade normale ukrainienne d'avant 2022. C'est presque des divisions, d'une certaine manière. Donc voilà, vous avez... C'est hétérogène dans sa forme et dans son commandement aussi, effectivement, au-delà du niveau brigade, il n'y a pas de division, de structure de commandement divisionnaire et de corps d'armée. Vous avez en fait des groupements tactiques et stratégiques qui sont avec des commandements qui sont relevés, enfin c'est des commandements qui restent pas très longtemps. Les unités déployées ne sont pas toujours les mêmes, c'est parfois les brigades elles-mêmes sont éclatées avec des bataillons au nord, à l'est, au sud-est. Donc c'est justement la réforme proposée par le gouvernement ukrainien, et qui a été poussée aussi par la société civile, beaucoup de pression justement pour régler ces problèmes-là, c'est de mettre en place une structure où il y a un corps d'armée, et au sein de ce corps d'armée, il y a plusieurs brigades. Et là, ce serait par contre une vraie structure qui avec une géographie déterminée, un nombre de brigades déterminé et une coordination qui est cohérente. Mais bon, ça, c'est une transformation qui va prendre du temps. Et la question, c'est de savoir si de son efficience aussi après.
Alexandra Goujon, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quelles sont les lassitudes de part et d'autre. Mais avant ça, peut-être un petit bilan humain. Ce conflit, depuis 3 ans, a fait des centaines de milliers de morts. Peut-être un tiers des 4 300 000 Ukrainiens qui ont fui en Europe à moins de 18 ans. Beaucoup ne reviendront sans doute jamais. Enfin, on ne peut pas non plus inscrire cela dans le marbre. Il est évident qu'un deal sans sécurité à long terme pour l'Ukraine pousserait des parents à envoyer leurs enfants à l'étranger. Ce qu'il faut, c'est une paix, mais une paix qui n'en finisse pas avec l'Ukraine.
Oui, alors cette guerre pour l'Ukraine, c'est une guerre existentielle. Mmh. Hein, je rappellerai, on est dans le plus long moment d'indépendance de l'histoire. L'Ukraine a été un pays qui a vécu un très court moment d'indépendance en 1918. Et ensuite, justement, pour les Ukrainiens, quelque part, cette guerre russo-ukrainienne, elle commence. Hein, à minima, au début du XXe siècle. Et on peut dire qu'en fait, l'invasion russe à grande échelle de 2022 a en quelque sorte un peu consolidé, en fait, cette nation ukrainienne face à une menace qui est devenue existentielle. Et je rappellerai à cet égard que c'est une menace qui ne concerne pas uniquement la question de l'intégrité territoriale, c'est-à-dire des territoires dont nous parlons. Hein. Rappelons aussi, en parlant de chiffres, qu'aujourd'hui, la Russie occupe un peu moins de 20% du territoire ukrainien, mais qu'aujourd'hui, avec la question de la légitimité de Zelensky dont nous parlions, c'est bien l'État lui-même et ses capacités qui sont dans le viseur de Moscou. Hein. Aujourd'hui, la Russie veut mettre la main sur l'Ukraine, la démanteler voilà, par de nombreux moyens. Alors, le problème, et on parlait de la mobilisation, le problème aujourd'hui, et Zelensky l'affirme, et je pense qu'il n'est pas le seul à le penser, c'est qu'effectivement, les Ukrainiens, les soldats ukrainiens sont en position défensive, ils tiennent le front, mais aujourd'hui, récupérer des territoires, c'est considéré comme irréaliste si la Russie continue d'avoir ce moyen de pression. Et ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que la Russie va augmenter ou pas ses moyens de pression. Donc pour Zelensky, il y a un équilibre à trouver entre mobiliser, hein, continuer à mobiliser avec une société qui est capable de se mobiliser. La société civile le montre tous les jours hein, avec les levées de fonds et l'appui qui est fait à l'armée. Mais dans le même temps, la perspective hein, de gagner des territoires aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. Donc c'est difficile de mobiliser dans ces conditions-là. Et puis il y a une chose peut-être dont on ne se rend pas compte, vous parliez des réfugiés et des personnes qui quittaient le territoire. Il faut avoir à l'esprit que les trains entre la Pologne et l'Ukraine sont pleins dans les deux sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'allers-retours. Il y a beaucoup de femmes qui sont parties avec des enfants, qui reviennent pour voir les maris, qui reviennent pendant un certain temps. Et bien évidemment, pour un retour un peu définitif, ce qui est effrayant, ce sont les sirènes, les bombardements, hein, qui font régulièrement des morts civiles hein, aussi, dont on parle finalement parfois assez peu par rapport aux soldats. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans toutes les rues, dans toutes les villes aujourd'hui d'Ukraine, il y a très régulièrement des funérailles de soldats. C'est ce qui nous permet, alors que nous n'avons pas de chiffres exacts, Zelensky évoquait 45 000 morts hein, récemment, nous n'avons pas de chiffres exacts, mais par contre, les funérailles de soldats, eh bien, elles sont observées par les Ukrainiens. Et aujourd'hui, on considère qu'à peu près 2/3 des Ukrainiens ont un proche hein, blessé ou mort. Hein. Donc c'est extrêmement important hein, ce qu'a vécu cette société pendant 3 ans. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de concession, eh bien, ça se fera aussi en conscience hein, de cette société qui continue d'être mobilisée hein, dans le combat, qui continue aussi parfois de le subir avec ce que j'évoquais tout récemment.
Et les funérailles qui en Ukraine sont montrées, contrairement à ce qui se passe en Russie. Alexandra Goujon parlait des moyens de pression de la Russie. Il y a aussi les moyens de pression de Donald Trump, on l'a dit, impatient à se débarrasser de ce conflit russo-ukrainien. Qu'est-ce qu'on peut dire des leviers de Trump pour qu'une solution soit trouvée ? Il y a la coupe de l'aide militaire à l'Ukraine, la levée des sanctions à la Russie, et puis aussi, important, surtout quand on parle d'une poursuite de la guerre, c'est le système de communication Starlink, sur lequel les Américains ont la main, bien sûr, et qu'ils pourraient couper. Qui souhaite commenter ? Philippe Gros.
Ben, ça dépend, effectivement. Je rejoins ce que disait, je vais commencer, je vais faire une réaction en reprenant ce qu'a dit très bien Alexandra Goujon. Donald Trump veut se débarrasser du conflit. C'est excellemment dit, c'est tout à fait ça. Et donc, à partir de là, les moyens de pression ne manquent pas pour couper. De toute façon, vous savez, si les Américains commencent à retirer l'aide logistique, Starlink, etc., enfin, il n'y a qu'en barre du choix pour, de toute façon, mettre l'Ukraine dans le, définitivement dans le rouge. Donc, la question qui se pose, c'est... quand on est sur un jeu qui est totalement asymétrique entre l'Ukraine et la Russie au regard de ce que veulent entreprendre les Américains. C'est-à-dire qu'en gros, les moyens de pression américains, en réalité, vont donner, enfin devraient donner, si les Russes, si on réfléchit à faire cyniquement sous l'angle de Moscou, si les Russes s'y prennent bien, ça peut en fait en réalité considérablement améliorer leur marge de manœuvre dans la guerre. C'est-à-dire que, en gros, on est dans une phase de la guerre où les Russes mènent une posture offensive depuis maintenant 16, 17 mois, où ils arrivent à un niveau d'usure eux-mêmes qui est extrêmement préoccupant pour eux, mais où l'usure sur l'armée ukrainienne elle-même a été significative. Quand je parle d'usure, c'est le taux d'attrition, c'est-à-dire le taux de perte en hommes, en matériel, moins les renforts, et également le jure sur le plan psychologique, dans le plan de la détermination, du moral, etc. Bon, les Russes mènent une posture offensive qui les a amenés à user considérablement leur appareil de force, dont d'ailleurs la baisse d'intensité qu'on constate depuis 2 mois, probablement aussi parce qu'ils essaient de recapitaliser un certain nombre de réserves pour repartir à l'offensive, un peu plus repartir à l'offensive au printemps. Mais derrière l'initiative de Donald Trump, peut donner aux Russes effectivement une capacité à obtenir, à avoir un cessez-le-feu qui leur permette de se regrouper, de recapitaliser leurs ressources, etc., etc. On est sur un jeu qui est fondamentalement asymétrique. Et en fait, les Ukrainiens, de toute façon, ont tout à pâtir de quoi que ce soit que les Américains feraient, dans le sens d'obtenir un résultat à très court terme. Sachant que, je dis encore une fois, les Russes sont dans un effort de temps long. Un effort de temps long, pour lequel d'ailleurs le kilométrage de territoire pris à l'ouest n'est pas forcément le meilleur indicateur. C'est un indicateur de l'état des forces, mais ce n'est pas forcément un indicateur de succès stratégique, puisque les Russes sont dans une logique de temps long. Et donc à partir de là, ce que les Américains, semble-t-il, se destinent à faire, encore fallait-il d'être confirmé, de toutes les façons, aura un impact, que ce soit, mais quelle que soit la nature, en fait, pour tirer ici. Starlink, la logistique, les volumes d'équipements, etc., etc.
Qui sont des éléments très importants dans le conflit actuel.
Bien sûr, ils sont déterminants. Ils sont déterminants. Et toute la question est de savoir si les Européens seraient capables, à quel point les Européens seraient capables, en augmentant dans la mesure du possible leur propre soutien, compenser ces retraits américains sur certains domaines, c'est inimaginable, notamment sur la défense solaire, par exemple, qui est un domaine que l'ensemble des forces occidentales a laissé en friche pendant 20 ans, et dans lequel on manque de systèmes en termes de volume, en termes de quantité, et pour lequel nos Allemands fournissent dans ce domaine comme dans d'autres beaucoup, mais dans lequel on manque cruellement de ressources, c'est un domaine parmi d'autres, et il faut que de toute façon, les Ukrainiens passeraient ou passeront énormément.
Youri Clavillier, vous souhaitez réagir, rajouter quelque chose à ce que vient de dire Philippe Gros ?
Oui, tout à fait. Je peux rebondir sur la question solaire, parce qu'effectivement, là, c'est un aspect critique. Et c'est peut-être aussi un des leviers de pression qui pourrait vraiment poser problème pour les Ukrainiens si Trump décide de l'utiliser. C'est que la majorité des systèmes à longue portée, c'est les lanceurs Patriot qui sont en Ukraine aujourd'hui. Même si beaucoup ont été fournis par les Allemands, par exemple, ça reste un système américain. Et notamment les munitions, il faut bien qu'elles proviennent de quelque part. Et les Américains en ont fourni beaucoup et en fournissent beaucoup. Et donc, sans l'aide américaine dans ce domaine-là, c'est vrai que pour l'Ukraine, il y a une vraie question qui se pose parce que c'est leur ville qui serait exposée, hein, donc leurs civils, leurs infrastructures critiques. Et interdire à un des plus grands succès de l'Ukraine, c'était la capacité d'interdire aux forces aériennes russes de pouvoir obtenir la suprématie aérienne sur le territoire ukrainien. Donc, sans système de défense anti-aérien bien équipé et bien maintenu en conditions opérationnelles et avec des munitions suffisantes, la situation pourrait se dégrader sur ce sujet-là. sur le segment terrestre, c'est-à-dire les blindés, l'artillerie, c'est moins le cas aujourd'hui. L'aide européenne, notamment en termes de munitions, l'Europe a quand même fourni, me semble, plus d'un million d'obus en 2024, avec une perspective d'augmentation de cadence de production significative dès cette année. Donc, pour faire très simple, si les États-Unis décidaient d'arrêter, de stopper net leur aide à l'Ukraine, la situation ne se dégraderait pas immédiatement pour les Ukrainiens. Mais à moyen terme, c'est-à-dire dans les 6 mois, disons, après l'arrêt du soutien, des vraies questions vont commencer à se poser, et des faiblesses vont probablement apparaître à partir de ce moment-là. Mais le soutien européen, il était lent, très lent à mettre en place, mais il prend progressivement il accélère, disons doucement, et justement 2025, c'est un peu l'année charnière où, et on le constate un peu aussi d'une certaine manière, où le soutien européen et en fait tous les contrats qui ont été signés, notamment entre le gouvernement ukrainien et les entreprises européennes, ont commencé à porter leurs fruits. Donc il y a un moment, une sorte de croisement des courbes là entre ce que les Américains font, ce que les Européens font pour l'Ukraine, qui tombe à pic, entre guillemets, avec ces négociations forcées que les Américains souhaitent imposer.
L'occasion pour l'Europe donc se mobiliser à plein sur la question ukrainienne, Alexandre Goujon. Alors il y a plusieurs questions et en guise de conclusion, il nous reste un peu moins de 3 minutes avant la fin de cette émission. La question qui se pose, c'est finalement, mais c'est quand même important aussi, en dehors de finir avec le conflit russo-ukrainien, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump a une stratégie et pour les Ukrainiens, quelles sont les incertitudes?
La stratégie de Donald Trump, je pense que ça a déjà été évoqué. C'est vraiment la question de la primauté de l'économie sur, la géopolitique et sur le militaire surtout. On l'a bien vu d'ailleurs avec cette question des terres rares. Pour Donald Trump, c'est non seulement, en finir avec le conflit, mais pour pouvoir investir en Ukraine, en fait, et créer les conditions d'un investissement économique.
Se faire offrir les terres pour les minerais. Évoqués.
Voilà, ce que donc jusqu'à présent Volodymyr Zelensky a refusé en disant je ne vais pas vendre mon pays, hein, ce qui est une formule quand même assez forte, parce qu'il a bien vu que derrière, hein, pour lui, investissement possible, mais encore une fois, hein, la question de la sécurité est primordiale pour les Ukrainiens. Donc je pense que les incertitudes sont de cet ordre-là. Mmh. Il y a comme quelque chose d'une confiance dans les capacités de la société, une confiance, mais qui reste aussi à conforter du côté de l'Union européenne, avec une méfiance sur ce que va devenir l'Union européenne. Et pour cela, les Ukrainiens sont aussi également extrêmement attentifs aux élections nationales au sein des États membres de l'Union européenne.
On pense à l'Allemagne.
Tout à fait, l'Allemagne. Lorsque je vais en Ukraine, on parle régulièrement de la situation politique française, bien évidemment. Donc aujourd'hui, la France, le Royaume-Uni sont considérés comme les deux États un peu en pointe dans l'engagement européen aux côtés de l'Ukraine. Et donc, bien évidemment, c'est vraiment cette recomposition internationale que nous observons tous, que les Ukrainiens aussi regardent avec une certaine inquiétude. Mais cette inquiétude, elle existe aux États-Unis et également au sein de l'Union européenne.
Merci Alexandra Goujon. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne et auteur de Ukraine, de l'indépendance à la guerre aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci aussi à nos invités qui étaient avec nous par téléphone. Philippe Gros, maître de recherche à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialisée dans les questions militaires. Et Youri Clavillier, chercheur à l'International Institute for Strategic Studies.